Mardi littéraire, aujourd'hui, inquiétante étrangeté, Antoine Volodine, Marc Danielewski. Avec Antoine Volodine, on va parler avec lui du volume qui sort aux éditions de Noël et qui rassemble ses quatre premiers romans, Biographie comparée de Jorian Murgrave, Un navire de nulle part, Rituel du mépris, Des enfers fabuleux. On est aussi avec Claro, traducteur entre autres mille choses de la grandiose Maison des feuilles de Marc Danielewski, qui est paru aux éditions de Noël il y a un peu plus d'un an, et qui propose aujourd'hui une sorte d'excroissance de ce récit fou, Les lettres de Pellafina, reprise partielle du texte de la Maison des feuilles avec des inédits et des éclairages nouveaux sur toute la construction du texte de la maison, histoire donc de revenir à cette Maison des feuilles dont on avait parlé ici trop rapidement. On est aussi avec Jean-Didier Wagner, qui connaît très bien l'œuvre de Volodine et qui a lu aussi ses lettres de Pellafina, avec Claude Ril, qui est traducteur entre autres de Arnaud Schmitt et qui est lecteur de Danielewski et de sa Maison des feuilles. Il est avec nous en ligne de Strasbourg, et on est enfin avec Arnaud Dehay, qui est critique et lecteur pour les jeudis, et on parlera avec lui des lettres de Pellafina et aussi de Variations en fou majeur de Christophe Miller, qui vient de paraître au Seuil dans une traduction de Claro. De Noël reprend donc en un volume vos quatre premiers romans. C'est intéressant parce que ça permet de reprendre un peu votre itinéraire éditorial, c'est-à-dire d'une certaine façon votre parcours d'écrivain et donc le parcours aussi esthétique et romanesque. Ces quatre romans étaient donc sortis dans la collection Présence du futur chez De Noël, ce qui les marquait beaucoup dans la production romanesque, puisque vous avez dû entrer dans ce que beaucoup d'écrivains considèrent comme une sorte de ghetto, c'est-à-dire celui de la science-fiction. Donc peut-être ce serait bien d'abord de savoir comment les choses étaient arrivées, c'est-à-dire comment, par exemple, est-ce que c'est vous qui, au moment de ces premiers romans, aviez décidé d'envoyer vos manuscrits à De Noël et pour cette collection, ou bien est-ce que c'est le hasard de l'édition?
C'est bonjour. D'abord, c'est les hasards de l'édition. J'ai envoyé chez De Noël ces manuscrits et pas spécialement pour cette collection.
D'accord.
Mais tout à l'heure, dans votre présentation, vous parliez d'itinéraire éditorial. Ce n'est pas la même chose que le parcours d'écrivain. Et cet itinéraire éditorial a commencé chez De Noël en Présence du futur, mais mon parcours d'écrivain a commencé bien avant. Et c'est un point sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, mais avant ces quatre premiers romans, qui ne sont pas des premiers romans, j'avais écrit quelque chose qui était une anthologie de textes de la Renaissance, qui était une époque inventée, imaginaire. Et cette anthologie de textes de la Renaissance mettait déjà en place l'idée d'hétéronymes, d'écrivains écrivant depuis leur prison, des textes qui ne ressemblaient à rien. Et ce premier texte, cette anthologie de textes de la Renaissance, on le retrouve cité dans Lisbonne Dernière Marge, 12 ans ou presque 15 ans après son écriture, sa composition véritable. Donc ces premiers romans qui paraissent en Présence du futur ne sont sont les premiers romans édités, mais pas les premiers romans écrits.
Ah d'accord, parce que cette anthologie avait, a été publiée avant ?
Non.
Non, d'accord.
Non, cette anthologie est restée, elle est restée clandestine. C'est une œuvre qui, une œuvre collective qui reprend à l'avance, avant la publication, l'idée d'une écriture collective et d'une écriture de texte ne se n'entrant pas dans les catégories officielles de la d'accord. littérature officielle.
D'accord.
Alors, dans cette idée, j'ai continué à écrire et ces premiers romans se situent dans la suite de ces premiers textes non publiés.
Mm-hmm. Donc vous faites une sorte d'introduction qui est signée de différents membres de cette littérature collective, dont Antoine Volodine. Mais vous dites en même temps, sans le dire tout en le disant, que c'est une sorte de fiction de cohérence. C'est-à-dire que dans l'après-coup, puisque c'est une œuvre collective, on peut faire entrer tout ce que vous avez fait, par exemple le premier de vos romans, puisque c'est quand même le premier publié, qui s'appelle Biographie comparée de Jorianne Murgrave. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire.
Oui, il y a un souci de cohérence.
Merci, quoi.
Oui,
voilà.
Il y a un souci
Merci.
De cohérence Merci. que j'ai affirmé par cet avant-propos, dans la mesure où, bien entendu, ces quatre premiers romans publiés en présence du futur étaient un peu une sorte de parenthèse dans cette idée de création collective que j'ai reprise ensuite lorsque j'ai été édité aux éditions de Minuit ou chez Gallimard, que j'ai reprise et systématisée dans un petit ouvrage chez Gallimard que j'ai appelé Le post-exotisme, dit leçon 11, qui était mon 11e texte publié.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, un système que j'ai appelé le post-exotisme a existé de façon officielle.
D'accord.
Mais les quatre premiers textes le faisait exister de façon intutive.
D'accord.
Voilà.
Ce sont des romans que j'avais lus au moment de leur sortie, et donc c'était impressionnant pour moi de les relire aujourd'hui. Le premier, je le disais, est sorti en 85. C'est impressionnant parce qu'il reste extraordinaire, quoi. Il reste intact, il reste toujours aussi frappant par leur rigueur, par leur violence, par leur étrangeté radicale, par leur caractère énigmatique. Je voulais titrer donc cette émission Unheimlichkeit, l'inquiétante étrangeté analysée par Freud, et aussi d'ailleurs par Heidegger cité par Danielewski. Je trouvais qu'il y avait une sorte de progression dans ces quatre livres vers une étrangeté de plus en plus inquiétante et de plus en plus prenante jusqu'à bon, ce qui est pour moi peut-être le plus grand des quatre, c'est-à-dire Les Enfers Fabuleux.
J'ai peut-être progressé au cours de mes expériences d'écriture. J'ai peut-être progressé dans l'organisation de cette étrangeté. Il est bien évident que la biographie comparée de Jorianne Murgrave, et bien que j'ai expliqué que ce n'ait pas été un premier roman véritablement, un premier roman édité seulement, c'est un roman dont l'écriture est adolescente, dont l'écriture est tâtonnante, dont la composition romanesque est moins pensée que par la suite. Hein, c'est l'expérience. Mais je suis très heureux de faire apparaître aussi cette progression dans cet édifice que je construis, cette progression d'écriture qui est aussi une trace qui reste de l'évolution, de ma propre évolution littéraire, mmh. et en même temps qui suit le parcours de cette vaste commune de voix écrivaines, un parcours qui passe d'une attitude très violente, très révoltée, à plus de sérénité, puisque les écrivains emprisonnés à perpétuité vont vers la paix intérieure, vers une certaine sérénité, vers vers une approche plus méditative du monde.
Vers la mort. Hein?
Vers la mort, oui.
Jean-Didier Wagner, quelle lecture avez-vous faite de...
Il y a une lecture scolaire qui verrait dans les débuts, je veux dire, la projection de ce que sera le futur de l'œuvre. En fait, il y a ça, mais bon, on pourrait dire que biographie comparée, je rien de mur grave, annonce Lisbonne dernière marge, qu'un navire de nulle part pourrait aussi, d'une certaine façon, faire signe du côté de l'univers soviétique de Dundalk, rituel de mépris aussi, reprendre tout le thème de Dundalk pour l'enfance, des enfers fabuleux, d'avoir toutes les histoires bouddhiques les unes embrouillées dans les autres. Mais je pense pas que ça amène à grand chose, hein, simplement à une belle dissertation. Peut-être qu'en fait, ce sont autant d'ouvertures, je dirais, dans l'entrée dans le labyrinthe des 13 volumes de Volodine. Et cette entrée dans le labyrinthe, en fait, va pas déterminer. Peut-être qu'il y aura, bien sûr, au fur et à mesure où il écrit, je dirais, il devient de mieux en mieux. Mais je ne pense pas qu'il y ait, que ce soit vraiment à part. De temps en temps, bien sûr, il est dans la présence du futur, on voit apparaître mutants ou extraterrestres, je ne pense pas que vous allez l'employer ensuite, ce type d'adjectif. Mais peu importe, on est déjà dans l'univers de Volodine dès ses quatre premiers romans.
Oui.
Moi, j'ai une tendresse particulière pour Rituel du mépris, hein, qui est le roman de l'interrogatoire, le roman de l'enfance. Pour des enfers fabuleux aussi, où en fait ça va être un combat de fiction par deux personnes dont l'une est enfermée dans un four, hein, qui rêve, qui projette. Et biographie comparée à Julian Murgraf, en fait plaît à tous ceux qui ont fait leurs études à l'époque du structuralisme, puisqu'il y a des biographies d'écrivains, il y a des palimpsestes, il y a tout ce qui fera
des lettres,
tout ce qui va faire un petit peu, je dirais, la lecture qui était mauvaise en fait, un petit peu post-structuraliste de Lisbonne dernière marge, où on pensait que là c'était une continuation du nouveau roman. Donc en fait c'est pas de ce côté-là qu'il faut le saisir. Il faut le saisir peut-être dans les intonations que Volodine va donner aux mots politiques, aux mots littérature, à partir des années 85. C'est un livre totalement, je dirais, solitaire en 85, lorsqu'il publie.
Julian Murgraf.
Ah, oui, ouais. Absolument. Ouais. C'est un livre célibataire, j'ai l'impression.
Et dans la science-fiction et dans le roman traditionnel. Ouais.
Moi, sur la science-fiction, je suis pas compétent pour répondre. Dans la littérature traditionnelle, oui.
Ouais.
Oui, ça c'est à peu près sûr. Et en même temps, on sait qu'il y a tout est déjà là en fait. On le sent à travers les mots que l'anthologie de la Renaissance, c'est le urtexte, quoi, caché, dont on verra des affleurements un petit peu dans Lisbonne dernière marge. Mais en fait, on a envie d'en savoir plus sur ce texte-là. Est-ce qu'il existe toujours cette anthologie de la Renaissance? Est-ce qu'elle a été rédigée complètement?
Oui, elle a été rédigée, oui, c'était un livre,
ouais,
totalement bouclé, mais que j'ai réutilisé partiellement dans Lisbonne dernière marge. Certains textes, et ce qui est peut-être le plus curieux quand j'y pense, parce que je ne pense pas en permanence à ce genre de choses, c'est que dans cette anthologie, il y avait déjà les formes nouvelles,
oui,
en particulier les chagas, qui étaient définies, qui étaient montrées, qui étaient données en exemple, et j'ai passé les années 80 en dehors de cette écriture de Chaga ou de cette écriture un peu formaliste, et je l'ai retrouvée 10-12 ans plus tard avec Lisbonne dernière marge.
Mais ce que vous permettait cette appartenance à cette collection, c'était aussi, je dirais, science-fiction d'ailleurs, c'est sûrement pas le terme, c'est une sorte de fantastique qui était, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça, qui était à l'œuvre, et en particulier la puissance de ces récits, et par exemple de Rituel du mépris et des enfers fabuleux, c'est la présence d'êtres absolument incroyables dont on ne savait jamais s'ils étaient humains ou animaux, et vous semez comme ça les indices, on voit passer des griffes, des plumes, etc., mais sans qu'on ait jamais une description, il y avait une puissance de l'étrangeté de ces êtres et de l'étrangeté de paysages. Par exemple, vous racontez dans Rituel du mépris des paysages irradiés, absolument incroyables. Et donc, il y avait une forme de fantastique tout à fait extraordinaire que vous maîtrisiez au fur et à mesure formidablement bien, avec en sous-main une fascination que pour ma part je n'avais jamais lue sur la question de la souffrance. Les Enfers fabuleux racontent ce que c'est que la souffrance de l'enfer à travers ce terme. Il y avait d'extraordinaires néologismes, et en particulier vous aviez inventé la flambulance. Et donc voilà, j'aimerais bien que vous parliez de ces choses.
Eh bien, je ne sais pas si je maîtrisais tout cela, mais Présence du futur m'a permis d'exprimer tout cela, m'a permis de raconter cela sans aucune censure, sans cette censure de la bienséance littéraire officielle. Et j'ai pu exister vraiment tranquillement dans mes univers, créer, faire apparaître des images qui m'étaient chères, parce que c'était l'idée, enfin, de ces paysages dont vous parlez, c'était de les faire passer à des lecteurs, de les transmettre, de les offrir. Et j'ai pu également développer les thèmes de la mort, de la vie après la mort, de la vie non mort, de l'éternité, de la perpétuité et de la souffrance.
Si vous voulez, l'éternité. Oui.
Et de la souffrance sans jamais avoir le couperet de la bienséance officielle. Et ça, je dois reconnaître que ça a été une chance très grande de commencer, d'avoir le droit de poser dès le début ces univers noirs, violents, post-atomiques ou pré-atomiques d'ailleurs, ces univers peu terrestres, et de les poser de telle sorte que ensuite je puisse m'y référer de façon à les faire fonctionner comme référence constante pour des textes qui ont suivi et qui les reprennent avec plus de entre guillemets bienséance, mm-hmm. peut-être. Parce que c'était pas une volonté littéraire baroque, c'était la naissance spontanée et intuitive d'un univers baroque. Mm-hmm. J'ai pas voulu faire un effet. J'ai eu le droit.
Ça vous a autorisé.
Ça m'a autorisé. Ouais. Et ça, je dois, j'en profite, dire que c'est grâce à l'éditeur qui dirigeait Présence du futur et qui était Elisabeth Gilles, à qui je rends hommage quand je peux le faire, parce que elle a permis mon existence littéraire dans un cadre qui n'était pas naturellement celui de sa collection, parce que sa collection n'était pas tellement fantastique, c'était science-fiction. Et mm-hmm. mes textes sont plus fantastiques que
ça. Et en même temps, l'une de vos caractéristiques, c'est pas seulement, comme vous dites, ce baroque, ces descriptions d'êtres, etc., qui appartiennent à l'univers du fantastique, c'est, et vous le disiez à travers ce terme de violence, une de vos spécificités, c'est la politique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces univers extraordinairement étranges et étrangers, vous introduisiez, et ça c'était une marque formidable aussi, ce qui est de plus réel dans le réel, c'est-à-dire de la politique, ou un vocabulaire politique, des souvenirs politiques, d'ailleurs déformés, biaisés, très déjantés, mais très très présents, peut-être pas de la même façon dans tous les romans, hein. C'est plus présent oui. dans les deux premiers par exemple que dans les deux derniers, ou en tout cas de façon plus explicite, mais ça aussi c'était une de vos marques, déjà.
Oui, je faisais apparaître des êtres, des narrateurs qui étaient dans des situations de révolte, dans des situations d'écrasement, de défaite, mais à l'intérieur d'un univers que je pensais toujours sous des termes très politiques, et ceux qui étaient mis en scène au premier plan étaient des combattantes beaucoup de femmes qui réapparaissent énormément dans Lisbonne dernière marge, pas seulement des révoltés, mais des hommes et des femmes en armes, mais dans ce cadre, en lutte contre le monde tel qu'il était, c'est-à-dire contre le capitalisme, mais contre l'injustice d'une manière générale. Et eh bien moi non plus, je ne me rappelle plus du tout ce que je voulais dire. À vous.
Je vais y revenir, oui, vous inquiétez pas. Jean-Didier Wagner.
Oui. Ah, tu me donnes la question.
Oui.
Mais je crois que ce qui est important, c'est de... On est quand même frappé face à l'univers de Volodine, en fin de compte, parce qu'on n'a pas tellement de concepts pour s'en saisir.
Ouais.
Et qu'on est toujours en train de parler de politique, d'esthétique, d'imaginaire. Et en fait, on a l'impression qu'il est en train d'inventer dans notre dos tout un monde ou toute une perception de ce monde pour lequel les concepts sont à inventer, peut-être. Et c'est un petit peu la lecture que j'ai eue d'une excellente thèse, puisqu'il aurait dû être là aujourd'hui, de Lionel Ruffel. Il a fait sa thèse sur Antoine Volodine. Elle est particulièrement, je dirais, brillante. Et en même temps, on se dit que toute la philosophie d'aujourd'hui, tous les concepts, des constructions, tout cela, en fait, ce sont autant de manières par lesquels on pourrait rentrer dans l'œuvre de Volodine, mais qui ne l'épuise pas, en fait. On a l'impression qu'il y a là la projection de quelque chose de 30 ans en avant, et que dans 30 ans, on lira correctement. Et qu'aujourd'hui, on est toujours en train de le ramener vers quelque chose, vers l'imaginaire, vers le politique, vers l'esthétique. Et en fait, il a une sorte de, comment dire, c'est pas la comparaison, une sorte d'indépendance à la Raymond Roussel, en fait. Et que, il est en train de nous faire surgir tout un monde, une manière de percevoir notre, jusqu'à l'ontologie, la manière dont on vit, et que pour l'instant, en fait, il est 30 ans en avance par rapport à ce qu'on en dira. Il invente son lecteur, c'était la vieille phrase, inventer son lecteur.
Raymond Roussel, ça vous convient ?
Non, mais je crois
que l'indépendance,
par rapport à l'indépendance. Je crois que j'ai l'indépendance de l'inculte aussi, peut-être, hein, tout
la
simplement, parce que je n'ai pas du tout fabriqué mes livres, du début jusqu'à la fin, en me référant à des théories littéraires, et d'une part parce que je ne voulais pas, et d'autre part parce que je ne les connaissais pas, tout simplement.
Oui.
Je n'ai pas cette culture critique qui me permettrait d'élaborer des modèles avant d'écrire et de ne pas réussir à écrire, finalement. Ouais. Hein, c'est ça.
Ça donne de la vision.
Ah, ouais.
Oui, c'était intéressant au début parce qu'on parlait comme ça de cette pluralité d'auteurs. On a une œuvre un peu prétendument ou réellement collective. Et je trouve que l'intérêt aussi, c'est justement de rabattre ça sur le lecteur. Et ça rejoint ce que vous disiez sur le fait qu'on est un peu désemparé, on n'a pas de critères, mais je trouve que c'est ça la force des livres, des grands livres, c'est de déstabiliser tout de suite le lecteur et de faire en sorte qu'on crée ce lecteur. Mm-hmm. Parce qu'il y a des livres où on rentre, on est déjà le lecteur du livre et en fait il se passe rien. Et là, ça fait partie de ces livres qui vont créer un lecteur. On n'est pas encore lecteur de Volodine tant qu'on n'est pas dedans, et il va falloir apprendre à le devenir en étant bien sûr en permanence, en perdant pied, etc. Et c'est pour ça qu'effectivement on n'a pas de... C'est même pas, je trouve, de pas avoir de repères ou de pas avoir de critères, c'est que ça crée une volonté chez le lecteur d'apprendre à lire. Et il y a un côté, on pourrait dire, ça serait une boutade et ce serait peut-être un peu stupide de dire que ce sont des livres qui sont traduits. Mais moi, c'est bizarrement l'impression que j'ai en les lisant.
Pour vous, c'est des bons livres.
Voilà, c'est magnifique, c'est traduit d'une langue que je ne connais pas. En le lisant, je cherche à comprendre cette langue, à la maîtriser. Et enfin, c'est vraiment une expérience de lecture, je trouve.
Je me suis exprimé déjà plusieurs fois là-dessus. Mon intention dans la langue utilisée, c'est d'utiliser une langue de traducteur. Mm-hmm. C'est de ne pas me référer à la langue française, mais à du français de traducteur. Mm-hmm. La langue de base de ces livres n'est pas le français. C'est une langue générale.
Alors justement, à propos de traduction, donc de quelque chose qui se transpose. Je voudrais revenir à la question de la politique. Comme vous savez, j'y tiens. Par exemple, si on parle d'un navire de nulle part, il y a une espèce d'atmosphère très très étrange, puisque c'est une sorte d'atmosphère de Russie soviétique, mais transposée dans un univers tropical, transpirant, suant, avec une jungle proliférante. Il y a une ville qui doit ressembler à Moscou, mais menacée par une jungle proliférante. Et donc, tout ce qui appartient au vocabulaire, à la tradition russe, entre guillemets, est une espèce de chose déformée, peu à peu monstrueuse, transpirante. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'ordre de la parodie, au fond, ce que vous faites du discours politique, de l'utopie communiste, d'ailleurs, de l'utopie stalinienne du communisme. C'est une sorte de... Vous mettez en scène une sorte de... ça qui est très, très frappant et très beau, je trouve. Vous mettez en scène ce que c'est que le désespoir politique, au fond. Voilà, ce qui reste quand il n'y a plus d'espoir politique et ce qu'on peut faire à ce moment-là. Par exemple, la violence.
Oui. Ce qu'il y a dans Un navire de nulle part, c'est que il a été écrit en 84-85, à une époque où l'URSS existait. La lecture qu'on a aujourd'hui de ce livre est presque impossible pour toute une génération déjà. Hein, je me référais à une culture politique, à une culture existante, à une culture imaginaire, mais la culture existante était forte de références qui étaient claires dans l'esprit du lecteur, politisé. Et en particulier, j'ai écrit ce livre à un moment où l'URSS en terminait. Enfin, oui, c'était la dernière période après Brejnev. Et c'était Andropov qui venait d'entrer en fonction, malade immédiatement. Et c'était un moment où en URSS, on pensait que on allait vivre un retour aux premières années soviétiques, ou à l'idéal soviétique. Il y avait en URSS une sorte c'était le dernier, la dernière tentative du pouvoir soviétique pour exister conformément à une tradition sans passer par la perestroïka et l'effondrement. Bon, voilà. Mm-hmm. Ce livre a été totalement imprégné de cette pensée.
Mm-hmm.
Bon. Or, cette reconstruction s'effectuait dans un pays en ruine qui ne pouvait pas être reconstruit. Et dans le livre, ça donne un retour à Petrograd, une sorte d'étape impossible de retour vers la pureté révolutionnaire, et en même temps la jungle, l'effondrement de la pourriture. Voilà, du paysage.
Mais je parlais de désespoir politique, ce qui permet de comprendre, par exemple, des personnages de terroristes qui sont souvent présents dans
oui, qui n'apparaissent pas du tout dans Un navire de nulle part, mais qui apparaissent beaucoup dans cette somme-là des quatre premiers romans.
Et c'est une très belle, comment dire, méditation, par exemple, sur l'humain et l'inhumain, par exemple. Souvent, ces terroristes, on les identifie pas très bien, ils sont peut-être d'une autre planète, c'est-à-dire, au fond, une certaine façon de se demander s'ils appartiennent tout à fait à l'humanité. Et je trouvais que cette façon de poser la question, bon, c'est ça, de cette violence ultime, à la fois de la comprendre et de la décrire à l'intérieur de ça, du désespoir politique.
Donc c'est très présent dans le livre. Ce que je mets en scène, ce sont des marginaux, des gens qui veulent changer le monde, qui sont extrêmement insatisfaits de leur existence dans le monde et du monde lui-même. Et dans ces premiers romans, leur nature est plutôt monstrueuse. Ce sont effectivement des non-humains. Alors que dans les livres qui ont suivi, et en particulier dans mes derniers livres, cette insatisfaction, ce désespoir face au monde, les conduit à s'affirmer non pas non-humains, mais sous-humains. Mmh. Ce sont des Untermenschen. Alors que ici, ces quatre premiers romans, ce sont des mutants, des non-terrestres, enfin voilà.
Mm-hmm.
Mais tous avec l'idée de se révolter contre le monde insupportable et d'essayer de lutter pour changer le monde, tout en tout en existant dans la souffrance, dans l'insatisfaction, dans la folie, à quoi conduit l'horreur du monde tel qu'il est.
Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Didier Wagner?
Oui, ben, il faut lire les quatre premiers, je pense, c'est assez évident. Et puis, non, ce qui m'intéresse le plus chez Antoine, c'est aussi bien sûr la politique, l'invention, je dirais, d'une littérature, mais c'est aussi cette perception, je dirais, de l'individu, du moi, complètement partagé entre des individualités diverses, partagé entre le rêve et ce qu'on appellera réalité. C'est-à-dire toute une ontologie qui, en fait, c'est celle de l'homme ordinaire. Je parlais de philosophie tout à l'heure, il y a un philosophe qui m'a fait une forte impression, qui s'appelle François Laruelle, qui avait écrit dans un livre qui s'appelle Une biographie de l'homme ordinaire, justement après 30 ans de philosophie, que fait que la psychanalyse ne dit rien de l'homme ordinaire, que la politique ne dit rien de l'homme ordinaire, et en fin de compte la parole est c'est à l'écrivain, au littéraire peut-être, de nous dire ce qu'on fait là et pourquoi.
Moi, je trouve qu'ils ne sont pas très ordinaires, les héros de Volodine qui vont passer 1000 ans à brûler en enfer.
Mais je crois que ils c'est... Sont... Non, je crois qu'il n'y a pas...
Ça peut arriver à tout le monde.
Oui, hein. Ça peut arriver à tout le monde.
Vous croyez?
Oui, l'homme ordinaire, Antoine Volodine.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec, avec Jean-Didier Wagner. Je pense pas sur ce point, oui. Non. Tous les personnages qui prennent la parole dans mes livres sont situés en dehors de l'ordinaire. Ils sont à la marge. Ils sont au contraire de l'homme ordinaire, ils sont révoltés.
Oui, mais oui, la révolte.
On n'a plus le temps.
D'accord.
Voilà, donc les quatre romans de Volodine sont publiés chez De Noël en un seul volume. Vous avez traduit il y a quelque temps la magistrale Maison des Feuilles de Marc Danielewski et vous proposez cette fois un petit volume étrange intitulé Les Lettres de Pelafina, signé Pelafina Lièvre et aussi Danielewski. Et donc c'est une entreprise assez étrange avec la reprise avec inédit ou en partie de l'une des parties de la Maison des Feuilles, donc l'annexe 2E, intitulée à ce moment-là Lettres de l'asile Three Attic Wildstow, donc les lettres de la mère du narrateur principal qui s'appelle Johnny Errand. Donc déjà c'est compliqué, hein. Donc voilà, explique un tout petit peu ce qu'est ce volume de lettres avant de partir sur le livre lui-même.
Donc ce livre est une espèce d'excroissance comme ça qui est pris à la Maison des Feuilles et qui correspondait à une partie très particulière dans la Maison des Feuilles qui était déjà une partie qui était à côté. C'est-à-dire que la Maison des Feuilles racontait une intrigue principale qui se passait dans une maison et à la fin du livre on avait une correspondance, enfin uniquement les lettres de la mère qu'elle écrivait à un des personnages du livre. Et Danielewski a repris ces lettres-là. Et en plus, il en a réécrit, c'est-à-dire la mère, on a réécrit un peu plus d'une dizaine. Et donc c'est un livre qui du coup se décale par rapport à la Maison des Feuilles, puisqu'il ne reprend plus du tout tout le système comme ça labyrinthique de la maison, et qui est comme ça une espèce de satellite qui s'est décroché et qui nous fait relire ces lettres en tant que telles. Et donc après ça peut peut-être permettre un retour à la Maison des Feuilles et une lecture différente.
Alors c'est une surprise étrange, c'est l'auteur qui a voulu ce bourgeonnement, on peut dire aussi, ou bien c'est l'éditeur américain, ou c'est De Noël, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que cette sorte d'excroissance, comme vous dites
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Danielewski fait quelque chose qui est fait rarement, mais qui est peut-être un grand fantasme de pas mal d'écrivains, c'est-à-dire de réécrire son œuvre, de la reprendre. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'écrivains qui réécrivent leurs livres, qui reviennent, etc., alors qu'on pourrait penser que peut-être c'est un désir secret. Et quand un livre est réédité, quand il y a de nouvelles éditions, comme ça que l'écrivain revienne et continue parce que c'est évident que pour lui son œuvre n'est pas achevée. Mm-hmm. Et l'intérêt après c'est de mettre cette démarche qui n'existe quasiment jamais, de mettre cette démarche dans un projet littéraire. Mm-hmm. C'est-à-dire de dire voilà, le livre continue à vivre et on peut le reprendre, on peut le tourner, on peut le modeler différemment et on peut comme ça offrir au lecteur d'autres angles d'attaque.
Bon, évidemment, c'est impossible de parler de ces lettres sans évoquer l'ensemble de l'extraordinaire entreprise de la Maison des Feuilles. Donc, on va essayer de parler de la Maison des Feuilles et puis de revenir à ces lettres. Mais peut-être un mot avant sur ce petit volume de lettres, Claude Ril.
Effectivement, ça a l'air d'être une espèce de satellite. Et puis, on peut se dire qu'il y en aura d'autres. C'est ça qui fait, je trouve, l'intérêt de cette publication, parce qu'on entend comme ça, à droite et à gauche, oui, bon, d'accord, il reprend les lettres, il y a 11 inédits, mais quel est l'intérêt de la publication de cela? Non, moi je pense que c'est justement la preuve que la Maison des Feuilles est tellement bourrée d'énergie narrative qu'il faut qu'elle continue à raconter.
Donc, on peut rappeler que La Maison des Feuilles a été d'abord écrit et publié sur Internet, et qu'on pourrait dire que c'est le premier grand roman de l'hypertexte, et que sa forme proliférante, géniale et terrifiante est le produit d'abord de son support dans une espèce de d'épaisseur de l'espace virtuel.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que justement, bon, en plus le texte avait circulé de façon très partielle sur Internet, et pourrait comme ça donner l'impression que c'était un texte qui était idéal pour Internet, qui aurait permis par sa tridimensionnalité comme ça d'entrer, alors qu'en fait, pour Danielewski, c'est justement le contraire d'un hypertexte, et c'est pour ça qu'il ne l'a fait circuler en fait sur Internet que pour commencer à tester un peu les effets de lecture, et pour lui, c'était évident que le livre devait exister en tant que livre, en tant qu'objet.
D'accord.
Et que, justement, cette dimension physique du livre ne peut se montrer que par l'objet livre. C'est-à-dire que pour lui, l'écran, ça n'a aucun intérêt parce que ça serait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, justement, c'est plat. Alors que là, le lecteur peut prendre le livre, il peut le retourner, il y a un rapport qui est physique. Et pour lui, le vrai hypertexte, c'est quelque chose, c'est un objet.
Alors, pour le dire très très vite, on peut dire c'est le roman de l'inquiétante étrangeté par excellence. Et c'est donc, c'est un suspense terrifiant et implacable, en même temps que, ce qui est très très rare, un roman d'une invention formelle inouïe. Invention bon, qui n'est pas seulement esthète, c'est-à-dire qui est une autre façon de faire exister le texte, de faire progresser la narration et de donner une sorte de matérialité. Donc il travaille beaucoup sur l'effet de réel pour donner encore plus de poids et renforcer la croyance au fond dans le réel de sa narration.
Voilà, et c'est là où il est très fort, c'est que si on essayait de résumer un petit peu comme ça les bases principales de l'intrigue, c'est l'histoire d'un type qui découvre un manuscrit, et ce manuscrit a été écrit par un aveugle, donc déjà on commence à avoir un décalage et on se dirige vers la nuit, et ce livre parle d'un film qui n'a jamais existé, puisque la personne qui trouve ce manuscrit sait que ce film n'a pas existé, il n'a jamais vu au cinéma, il n'a jamais entendu parler.
Il s'appelle de Navidson Record.
Voilà, Navidson Record. Ce film étant l'histoire d'un cinéaste qui filme ce qui se passe à l'intérieur de sa maison, tout en sachant que cette maison est un espace vide, absolument obscur, il n'y a aucune fenêtre, il n'y a pas de lumière. Donc on a quand même un livre écrit par un aveugle sur un film qui n'existe pas, qui parle d'une maison qui n'existe pas, où il n'y a rien à voir. Donc à partir de là, effectivement, on pourrait se demander comment on fait 700 pages là-dessus. Et c'est toute la force de Danielewski de nous faire entrer là-dedans. C'est-à-dire une fois qu'on a décalé 3-4 fois le réel de façon aberrante, on est dans une autre réalité et on marche complètement, et de nous faire entrer dans cette maison et de nous y perdre, et de générer une quantité invraisemblable d'explications. Donc il le fait en plus, lui, Danielewski, puisque ce film aurait généré une glose invraisemblable, universitaire, etc. Donc le livre est truffé de notes en bas de page qui montrent que les gens se sont cassés la tête sur...
sur l'interprétation de ce film.
Ce film, comme nous, peut-être, on peut se casser la tête un peu sur l'interprétation du livre. Et moi, je trouve que l'intérêt, c'est de... En faisant proliférer les interprétations, finalement, Danielewski nous dit pourquoi on veut interpréter. Et donc, en fait, il montre une chose qui est la démarche du lecteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours une volonté chez le lecteur d'interpréter. Et donc là, il devance ce désir en le dopant d'interprétation jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucune. Et alors après, qu'est-ce que le lecteur fait? Et ça, c'est un des effets que Danielewski recherche. Et puisqu'on ne peut plus interpréter son livre ni ce film, puisque dès qu'on va penser à une interprétation, elle est déjà donnée, le lecteur est obligé d'y faire entrer finalement ses propres expériences.
Mais vous insistez sur le caractère interprétatif, mais il y a aussi une trame, on pourrait la raconter autrement, on pourrait dire ce film est l'histoire d'une petite famille modale qui s'installe dans une petite maison à la campagne et qui découvre peu à peu qu'elle habite, c'est le vieux thème de la maison hantée, qu'il y a des portes mystérieuses qui ouvrent sur des couloirs et peu à peu les couloirs se s'allongent, il y a un vestibule effrayant et on envoie des expéditions qui se perdent dans ce labyrinthe effrayant et voilà, donc ça c'est le cœur aussi de la narration qui tient en haleine.
Voilà, parce que le principe du livre c'est que cette maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que les personnages s'aperçoivent petit à petit qu'il y a des espaces comme ça qui apparaissent et en plus les espaces grandissent. C'est-à-dire qu'ils peuvent marcher pendant 7 heures dans la maison, ils peuvent calculer qu'une pièce fait peut-être 70 km d'après leurs instruments. Et c'est chaque fois en fait un trou. Cette maison est un trou. Alors on peut après imaginer que c'est Dieu, que c'est l'infini, etc. Mais pour eux, ils sont justement face à quelque chose d'ininterprétable.
Mm-hmm. Claude Ril. Claude Ril.
En même temps, on parlait de modernité tout à l'heure, de l'hypertexte par rapport au livre. C'est tout simplement Danielewski s'est aperçu tout à fait normalement que le codex est plus riche que le volumen. Hein, parce que le principe, effectivement, de l'ordinateur, c'est volumen, le texte déroule. Mais aussi, il faut dire que Danielewski reprend des procédés absolument classiques, hyper connus de la littérature. En fait, il reprend le procédé du manuscrit trouvé.
Oui.
Ça part là-dessus. Et puis alors, il reprend plein de clichés, de genres, de la littérature, enfin la maison hantée, la Californie sex, rock'n'roll, enfin...
Le roman d'aventure.
Oui, le roman d'aventure, effectivement. Mais son génie est justement de se donner de nouveaux moyens de raconter ces choses-là en travaillant sur le corps même de la page. Du codex, justement. Alors, il arrive à nous faire lire deux textes simultanément dans une colonne de gauche, de droite, où il y a une partie supérieure, une partie inférieure, qu'on peut lire quasiment simultanément. Il y a des fenêtres tout court où se déroulent des textes. Hein. Par exemple, ces fenêtres remarquables où se déroulent tous les éléments qui ne sont pas dans la maison. C'est-à-dire, en fait, elles n'existent pas.
Ouais.
Voilà, il se donne ces moyens-là, il rajoute des notes partout, des notes dans les notes, et effectivement, bon, c'est c'est apprendre à lire au lecteur aussi, hein, c'est-à-dire lui donner une nouvelle possibilité, des nouvelles possibilités de lecture.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il retrouve, par exemple, toutes les inventions de la poésie visuelle. Ou la poésie visuelle des années 70, oui, pour les intégrer à ce récit de suspense.
Oui, mais par exemple, bon, les références, les colonnes, les textes simultanés, par exemple, Arnaud Schmitt a inventé ça dans les années 60. Hein.
Oui.
C'est quelqu'un qui vivait entouré d'encyclopédies, qui piochait dans les encyclopédies. La seule différence, c'est que maintenant, bon, Danielewski...
On vous entend très très mal, Claude Ril. Vous êtes sûr que vous ne mettez pas votre main devant votre...
Non, ça va, là, vous m'entendez mieux.
Voilà.
Oui, la seule différence, c'est que Danielewski, effectivement, maintenant, va chercher ses références sur Internet, ce qui est tout à fait normal, ce qu'on fait tous, maintenant. Hein. Mais, si vous voulez, c'est quand même quelqu'un qui a compris qu'il faut offrir de nouvelles possibilités de lecture.
Hein.
Ouais. Avec des pages à l'envers, des listes extraordinaires aussi, absolument. Des listes d'architectes, des listes d'architecture, des textes en miroir, c'est-à-dire qu'on a le texte à l'endroit et ensuite le texte à l'envers. Effectivement, plusieurs colonnes sur la même page, où donc qu'on peut lire donc à plusieurs vitesses, des pages blanches avec simplement une ligne, des pages noires comme le Tristram Shandy, etc. C'est ça qui est, cette espèce de virtuosité formelle au service de son récit, qui est éblouissante.
Oui, oui, et puis c'est aussi une convivialité avec le lecteur, c'est ouais. Physique. Hein. C'est pas du tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche aussi, que ça serait le livre d'un bourgeoisé, drogué, new-yorkais. J'aimerais bien citer un petit passage d'une interview de Manuel Esprit.
Je suis pas sûr, Claude Drille, parce qu'on vous entend vraiment très mal.
Vous m'entendez là?
Là, oui.
Oui. Je veux juste vous donner cette citation que je trouve vraiment formidable. Rien n'existe dans ce livre au nom d'une quelconque posture cool. Il ne serait pas honnête vis-à-vis du lecteur de ne pas avouer que la maison des feuilles n'atteint jamais moins que trois niveaux de sens différents, qui en révèlent ensuite plusieurs autres. Le livre cherche constamment à construire une relation privilégiée entre le lecteur et les mots, créant ainsi un espace dans lequel l'intimité d'une imagination puisse se déployer. Voilà, là, elle est là, la convivialité. Hein.
Oui. Arnaud
Dehaere. Ce qui est très beau, c'est que ce texte en fait se construit autour d'un film invisible. Et en fait, le texte serait comme une sorte de métafilm. Et à ce sujet, en fait, la notice biographique concernant Marc Danielewski nous indique que son père était un cinéaste expérimental new-yorkais. Et là, on est tout à fait proche aussi des recherches des cinéastes expérimentaux new-yorkais, notamment sur le texte, etc. Et sur l'espace aussi, on peut penser à Michael Snow avec des mises en abîme, des choses comme ça. Et ça, c'est très très maîtrisé de la part de Danielewski. Là, il y a vraiment un substrat culturel très impressionnant sur le cinéma des années 60 et 70.
Il y a des parodies, des discours critiques, parce qu'il y a beaucoup d'ironie, c'est aussi très drôle, très souvent, sur les effets de parodies savantes, par exemple.
Oui. Mais justement, sur ces parodies savantes, il y a une maîtrise des outils techniques du cinéma qui est magistrale, c'est-à-dire cette caméra à réflexe avec des bobines de 30 mètres qui appartiennent pas du tout au cinéma classique, mais vraiment au cinéma expérimental, sur des courtes durées, la vidéo HI8 aussi, qui était un petit format comme ça, intermédiaire entre l'amateur et le professionnel. Une maîtrise de Danielewski à ce niveau-là, très impressionnante. D'une certaine manière, il rend... Là où les cinéastes expérimentaux des années 60-70 avaient pris la littérature pour l'insuffler dans le cinéma, là tout à coup il fait tout à fait le trajet inverse.
Mm-hmm. C'est vrai, oui.
Mais c'est vrai que ça c'est très important, parce que quand on regarde le livre, on peut effectivement penser à ce qu'on disait tout à l'heure, d'autres expériences typographiques qui ont existé en poésie. Alors qu'en fait, je pense qu'effectivement, pas la piste, mais c'est vrai que ce qui construit son livre de façon très cinématique, et il essaye de faire à certains moments, par exemple, pour lui, une page devient comme un plan. Et il découpe les mots, il les met sur la page, vraiment comme si chaque fois on avait un photogramme, et c'est au lecteur de trouver la bonne vitesse pour arriver à 24 images par seconde. Et ça lui permet de créer un rythme et un suspense qui est surtout visuel.
Mm-hmm. Mais il y a comme tout un système de preuves tout le temps. Hein. Donc les films qui restent, qui s'appellent Exploration 4 ou Exploration 3, etc., sont des formes de preuves que ce labyrinthe infernal existe vraiment. Il travaille les effets de réel au point que, par exemple, à la fin du volume, on a des papiers déchirés retrouvés dans les affaires du premier narrateur ou du premier collecteur qui a recherché tout ce qu'il y avait sur le film, etc. On a un plan possible de la profondeur de la maison, etc.
Voilà, ce qui fait exploser un peu les limites du livre. C'est pour ça que chaque fois on croit que le livre est fini, on a des annexes, on a comme ça un hors-champ, en fait, où on s'aperçoit que des artistes ont fait des œuvres, donc il y a des reproductions d'œuvres comme ça qui auraient été inspirées par ce film. Et ce qui fait que ce qu'on parlait, effectivement, ça oblige le lecteur à se demander qu'est-ce que c'est lire. Est-ce que c'est pas, au bout d'un moment, se mettre un peu à intervenir un peu plus sur un texte? Quand vous avez une liste de noms propres qui dure 10 pages, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous la lisez vraiment? Est-ce que ça se lit, une liste, finalement? Enfin, il y a comme ça... Il y a des gens qui s'amusent à la lire, on peut ne pas la lire, mais ça veut dire que des fois lire, c'est aussi ne pas lire, c'est-à-dire que c'est faire des choix, c'est revenir en arrière. Et pour ça, dès qu'un livre invente comme ça une lecture, ça devient tout de suite fabuleux.
Claude Rille ?
Oui, je voudrais juste revenir aux lettres de la mère de Johnny Errant.
Donc le petit volume qui est sorti.
Voilà, ce qui est quand même intéressant dans ces lettres inédites, c'est que, pour la première fois dans les lettres apparaissent des métaphores concernant la maison. Parce que, par exemple, la mère parle à un moment de pièces qui se créent, des pièces secrètes, des centaines de pièces pleines de ruines indiscernables. Elle décrit son propre état mental. Hein. Elle dit, bah, je vis au bout d'un interminable couloir. Ouais. Ou combien y a-t-il de pièces? Ces cadernes sont-elles vastes? Ces fenêtres rares? Hein, et elle parle de soi-même, hein, de son état mental. Et donc ça, c'est quand même une piste nouvelle, hein, je trouve, dans la compréhension de cette maison. Et parfois, on a l'impression que c'est cette mère, éventuellement, qui est la génératrice de cet abîme, quoi.
Votre hypothèse, c'est que ce volume est publié à part, comme une sorte d'excroissance qui permettrait une nouvelle interprétation de ce que c'est, oui, que la maison, et en particulier que c'est cette mère enfermée à l'asile, folle et délirante, qui serait la productrice de la maison. C'est ça,
voilà,
votre...
qui serait génératrice de cette maison, oui. Oui. Parce que bon, on le sait, elle a essayé de le tuer, mais c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs en asile psychiatrique. Et lui-même nie qu'elle ait voulu le tuer. Alors, c'est peut-être... C'est des pistes qui sont lancées, je trouve. Hein,
et pour vous, ça expliquerait la publication de ce petit volume supplémentaire?
Absolument.
D'accord.
Absolument.
Justement, la mère, on la retrouve à l'asile dans les années 80, donc juste plutôt à la fin des années 70, et on est vraiment proche dans le bouquin qui est une expérience stupéfiante, justement, des expériences stupéfiantes et sensorielles de toute une génération d'artistes qui mêlaient à cela de l'érudition. On peut penser à Burroughs aussi, et le bouquin emmène à l'asile, assez clairement, c'est-à-dire qu'à la lecture... À la lecture, on perd complètement l'espace et le temps. Hein. C'est-à-dire que si on le lit dans le métro, on risque vraiment de rater sa station.
Comme l'annonce le narrateur. Hein, la narrateur dit, attention, si vous commencez ce livre, c'est fini, vous allez perdre la notion du temps et de l'espace. Et effectivement, ça marche.
Exactement, d'ailleurs.
Mais
comme
c'est le propre de toucher l'œuvre. Hein.
Comme le Zarathoustra de Nietzsche, d'ailleurs, ça commence en nous indiquant que ceci n'est pas pour vous. Ce livre n'est pas pour vous. Ouais. Ce livre n'est pour personne.
Oui, oui. Cela dit, Claudry, le volume de lettres en soi est un très beau recueil de lettres en soi.
Oui, c'est absolument merveilleux. La lettre, par exemple, de la mère où elle annonce, elle révèle à son fils, Johnny, qu'elle a voulu le tuer, est prodigieuse. Hein. C'est, je ne sais pas, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous en lire des extraits. Non, les lettres elles-mêmes sont magnifiques et d'invention. Enfin, je ne sais pas comment on peut arriver à écrire une chose pareille. Quoi.
D'invention, par exemple, typographique, là encore.
Oui, il y a aussi des inventions typographiques, oui, bien sûr, qui montrent bon, le désarroi mental de cette femme. Oui. Mais c'est la teneur même des lettres, cette espèce d'amour dévorant et dangereux, hein, qu'elles expriment.
Oui.
Ouais. Bah, ces lettres d'un asile, en fait, enchâssées dans ce livre de folie, en fait, Johnny errant nous prépare déjà à ça. Enfin, je peux lire un petit morceau où déjà il évoque des lettres de sa mère. Un jour, j'ai reçu une lettre dans laquelle elle s'excusait pour ce qu'elle avait fait. Au début, j'ai cru qu'elle parlait à nouveau de la poêle pleine d'huile brûlante qu'elle avait accidentellement renversée par terre quand j'avais 4 ans, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Même si d'une façon épouvantable, ses aveux ont changé la façon dont j'ai commencé à considérer mes trop de doutes, pardon, mes cicatrices, leur tourbillon océanique équivalent à des soupçons et bien trop de doutes pour que je puisse correctement les assumer. Mmh. Et les lettres de Pelafina s'excusent justement de cette tentative d'étouffement, de l'ébouillantement, de toutes ces choses-là.
Comment vous les comprenez, vous, ces lettres et la publication de ce volume, Claro?
Ben, ce qui est étonnant, c'est que quand on le feuillette, quand on le regarde comme ça, on retombe un peu sur ces variations typographiques qui semblent renvoyer à quelque chose de formel, de formaliste, alors que quand on les lit, on a plutôt ce espèce de choc et de tremblement qu'on a, par exemple, quand on lit les lettres de Rodez d'Artaud, qui sont évidemment un texte que Danielewski a lu et qui l'ont marqué. Et l'intérêt, c'est de voir comment, à la fois, en donnant cette impression de faire une recherche purement formelle, on arrive à faire rentrer et à faire passer une charge d'émotion incroyable. C'est-à-dire que même si le lecteur prend le livre et le retourne pour essayer de décrypter les choses, il est dans une démarche qui est profondément humaine. C'est-à-dire, c'est comme si, pour exagérer, on va dire, il palpait un corps ou quelque chose comme ça. La matérialité typographique renvoie aussi à une expérience physique. Enfin, moi, je trouve.
Un mot pour finir, Claudril?
Oui, bah pour finir, je vais en citer un mot justement d'une journaliste qui a très bien compris, je trouve, ce qu'est la Maison des Feuilles. Elle s'appelle Céline Minard. Je vous la cite. Alors en tout, la Maison des Feuilles, c'est quoi? Eh bien, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art? Quelque chose qui dégage plus d'espace qu'elle n'en contient. Voilà.
Merci beaucoup. On termine avec vous, Arnaud Dé, avec un roman qui va être traduit par Claro, qui s'appelle...
Variation en fou majeur, de Christopher Miller. C'est un ouvrage assez curieux aussi par sa forme. En fait, il adopte la forme d'un livret pour une intégrale de la musique d'un compositeur pour le moins curieux qui s'appelle Simon Silber. Pour situer ce compositeur, il fait des expériences musicales peut-être proches de John Cage ou Steve Reich. On a plus l'impression d'avoir affaire à un plasticien dadaïste ou Fluxus, ou même il fait des expériences comme celle des nouveaux réalistes, il détruit ses pianos. L'ouvrage, en fait, cette forme livrée, est l'occasion de développer une notice biographique de cet auteur qui se révèle être un criminel. Alors, je ne sais pas, enfin, Claro pourrait peut-être en parler aussi, mais le biographe se révèle aussi être un petit peu fou. Et donc, on a une double biographie qui se croise. Il empiète de plus en plus sur la biographie de ce compositeur, Simon Silber.
C'est censé être un texte glissé dans le coffret de CD.
Voilà, de 4 CD. Alors, sur la forme, justement, chaque chapitre s'ouvre avec une plage, un titre de plage. Donc on a Corbeau, des notations musicales, beaucoup, et le minutage aussi. Sachant que le texte excède souvent le minutage proposé. Alors on a des pièces très très courtes, proches de Webern, qui font 3 secondes, vraiment des miniatures comme ça. Et en fait, ce compositeur Simon Silber est obsédé par lui-même. Il est sa propre musique, qui est un petit peu d'ailleurs comme dans le livre de Danielewski, où le film n'est pas visible. Là, la musique est absolument inaudible et se révèle être une recherche du silence.
Oui, je veux quand même dire que ce compositeur est après a choisi un biographe parce que ce compositeur pense qu'il est un génie. Donc il pense que il faut à l'avance écrire une biographie. Lui-même se comporte comme un génie. Donc par rapport au cliché normal, il se dit qu'un génie est excentrique. Donc c'est un type qui de façon velléitaire se conduit comme un excentrique. Il ne l'est pas forcément, mais il essaie de donner tous les signes extérieurs du génie par l'excentricité et donc décide d'engager le type qui lui paraîtra le plus plat et le plus minable pour écrire une biographie qu'il aimerait qui soit une hagiographie en fait. Sauf que ce type, au lieu d'écrire cette fameuse hagiographie, essaye de décrypter réellement le personnage de ce compositeur, comment il est devenu ce qu'il était. Et là, il y a quelque chose de très beau, c'est qu'on voit que ce type, son père voulait en faire un génie justement, voulait en faire un pianiste prodige. Et il y a une espèce comme ça de un peu la fabrique des monstres, hein, où on essaye de créer un génie de façon avec des théories comme ça un peu scientifiques dangereuses. Et évidemment, ça a complètement raté. Et Silber n'est pas devenu le génie du piano, mais est devenu justement une espèce de génie vide comme ça. Et c'est sur ce vide qu'enquête ce biographe.
Oui.
La référence obligée, là, c'est Beethoven, évidemment. Le père, d'ailleurs, avait plus, le père du compositeur Silber, a une admiration folle pour Beethoven, mais pas le fils, le père, c'est-à-dire pas le compositeur, le père du compositeur, pour l'avoir amené à être un génie. Et donc, il élabore toute une méthode, avec des références à la méthode Suzuki, pour apprendre la musique et l'écrire.
On a parlé parler aujourd'hui des quatre premiers romans de Volodin publiés sans prénom, publiés aux éditions de Noël en un seul volume, biographie comparée de Jorian Murgrave, Un navire de nulle part, Rituel du mépris et Des enfers fabuleux. On a parlé des lettres de Pelafina ainsi que de La maison des feuilles de Marc Danielewski, deux volumes traduits par Claro aux éditions de Noël. Et on a parlé de Variations en fou mineur ou majeur ?
Majeur.
Majeur, j'ai écrit mineur. De Christopher Miller, qui est traduit par Claro et qui est publié aux éditions du Seuil. Cette émission a été réalisée par Anne Franchini, à la prise de son Jacques Vincent, à la documentation Marie Gobin et à la coordination Geneviève Méric. La semaine prochaine, la première personne avec Guy Walter, Dominique Méens et Valérie Mregène.